Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la deuxième vague de la pandémie qui submerge le vieux continent. L'Europe tente de réagir et les mesures se multiplient. L'Espagne, un des pays les plus touchés, plus de 3 millions de cas, se prépare au couvre-feu. Le Pays de Galles, lui, a fait le choix d'un nouveau confinement d'une durée de 2 semaines. Depuis hier, des millions d'habitants de cette province britannique sont invités à rester à la maison. La Pologne est-elle passée en zone rouge ce samedi en raison de l'explosion des cas de contagion, plus de 13 000 ces dernières 24 heures. En Pologne, les écoles primaires sont partiellement fermées. Seules les maternelles accueillent encore des enfants et les rassemblements sont par ailleurs limités à 5 personnes. La Pologne, où le président Andrzej Duda a été testé positif. Arrêtons-nous ce soir sur la situation en Allemagne. La barre des 10 000 morts liés au coronavirus a été franchie. Et si le pays reste moins touché que ses voisins, le rythme des nouvelles infections s'accélère. Les autorités appellent les Allemands à réduire leurs contacts. À Berlin, Delphine Herbollier.
C'est une barre symbolique qui vient d'être franchie, celle des 10 000 morts liés au coronavirus depuis le mois de mars. La pandémie rattrape donc ce pays, jusque-là davantage épargné que ses voisins. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes bat chaque jour de nouveaux records, plus 14 000 hier. Ces chiffres élevés sont toutefois à relativiser. La France, par exemple, a comptabilisé 4 fois plus de nouveaux cas que l'Allemagne hier et elle compte au total 3 fois plus de morts. Idem pour l'Italie, et cela alors que ces deux pays sont moins peuplés que l'Allemagne. Il n'empêche, les autorités à Berlin s'inquiètent. Des mesures de restriction ont été prises dans de nombreuses villes, sans toutefois en arriver encore au couvre-feu. À Berlin, par exemple, le port du masque est devenu obligatoire dans certaines rues très fréquentées, et un quasi-confinement a aussi été imposé dans un canton de Bavière. Ce samedi, dans une nouvelle vidéo, la chancelière Angela Merkel a appelé de nouveau les Allemands à réduire drastiquement leurs contacts. La situation empire, mais nous ne sommes pas impuissants contre le virus, rappelle Angela Merkel. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
En Iran également, le virus continue sa course. Ce samedi, c'est l'ayatollah Ali Khamenei qui a demandé de tout faire pour réduire la propagation de la pandémie. Une des rares sorties publiques du guide suprême. Dans la République islamique, le bilan s'élève désormais à plus de 32 000 morts, dont 335 ces dernières 24 heures. C'est le pays le plus touché au Moyen-Orient. En Guinée, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont tombés. C'est Alpha Condé qui l'emporte avec 59,49% des voix selon la commission électorale. Son opposant, Selou Dalein Diallo, aurait obtenu plus de 33% des suffrages. Il s'est déclaré vainqueur de la présidentielle avant même la publication des résultats et conteste ces résultats officiels. En Guinée et notamment à Conakry, la situation est tendue. La capitale était très calme aujourd'hui, presque déserte, quadrillée par les policiers. Depuis lundi, le pays est plongé dans des violences post-électorales. Au moins 15 personnes ont été tuées. Aujourd'hui, samedi 24 octobre, marque le 75e anniversaire des Nations Unies. Et à cette occasion, le mouvement Pax Christi International publie, avec d'autres organisations catholiques, une déclaration exhortant à la paix, à la justice, aux droits de l'homme au sein de l'ONU. Une déclaration qui réaffirme les bienfaits du multilatéralisme, en particulier en pleine pandémie, et alors où les nationalismes et les réflexes de repli sur soi menacent la cohésion internationale. Monseigneur Marc Stenberg est évêque de Troyes dans l'est de la France et président de Pax Christi France. Il revient ce soir avec nous sur l'importance de cette déclaration et de soutenir le travail des Nations Unies. On l'écoute.
Ce que nous avons surtout voulu dire, c'est que l'ONU et les Nations Unies sont plus nécessaires que jamais parce que nous sommes dans un moment de grave crise de l'humanité et de son avenir. Je crois que c'est extrêmement important de lutter contre le repli sur soi des nations, les tendances qui se font jour un peu partout, au repli sur soi, aux solutions populistes qui s'appuient sur les intérêts particuliers des nationalistes. Ben, il est important que cette organisation qui depuis 75 ans lutte précisément pour créer un peu plus d'union à travers le monde, qu'elle soit non seulement toujours efficace mais renforcée. Nous ne nous sauverons pas sans les autres, ni surtout contre les autres. Les problèmes d'aujourd'hui, en particulier le Covid l'a montré plus que toute autre chose, ils sont universels, ils franchissent les frontières, qu'on le veuille ou non. Donc il faut qu'on se sauve ensemble, qu'on résiste ensemble et qu'on prenne ensemble les moyens de lutter comme il faut.
Voilà des propos à retrouver sur Internet, recueillis par Olivier Bonnel. Le pape François nomme Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa patriarche latin de Jérusalem. Ancien custode de Terre Sainte, le religieux capucin italien a été nommé ce samedi à la tête du patriarcat, dont il était l'administrateur apostolique depuis 2016, et le départ de Monseigneur Fouad Toile pour limite d'âge. Né en 1965 dans le nord de l'Italie, près de Bergame, Monseigneur Pizzaballa est arrivé en Terre Sainte en 1990, où il fut notamment professeur d'hébreu biblique à la faculté franciscaine de Jérusalem. Et on reste dans l'actualité vaticane. Le pape François a reçu en audience ce matin en salle Paul VI au Vatican environ 200 enseignants et étudiants de la faculté théologique pontificale Marianum à l'occasion des 75 ans de sa fondation. Avec eux, le Saint-Père est revenu sur l'importance de la mariologie aujourd'hui dans l'Église. Alors pour plus d'approfondissement, une adresse sur internet www.vaticannews.va. Nous revenons ce soir sur la pandémie de coronavirus et comment celle-ci a pu changer notre rapport au temps et à la lenteur. Être lent est communément perçu dans nos sociétés occidentales comme un manque de performance, de compétence, et non comme une aptitude à la contemplation, à la méditation, à savoir se ressourcer pour mieux discerner. Mais le confinement et le couvre-feu, appliqués actuellement dans de nombreux pays, induisent un profond changement, un passage d'un rythme souvent frénétique à la découverte du ralentissement. C'est ce qui se vit notamment dans l'abbaye de Cœur Moussa, au Sénégal, où le cœur de la vie monastique bat au rythme de l'Afrique, comme en témoigne frère Bernard. Il est moine camerounais à Cœur Moussa depuis 15 ans.
Le temps dans la vie monastique est celui de la croissance en Dieu, la croissance dans la charité avec nos frères en communauté et tout ce que nous rencontrons ici, les autres de passage. C'est aussi le rapport aux choses, les choses qui demeurent, celles qui passent. Le temps dans la vie monastique est véritablement celui d'une présence de qualité aux autres et à Dieu.
Cela implique une certaine lenteur.
Effectivement, ce temps-là, c'est un temps vraiment lent. Un temps de croissance. Et la croissance en Dieu, elle est lente. Et le temps de notre propre croissance en Dieu, on va dire que le temps dans la vie monastique, c'est le temps de l'épreuve.
Quel doit être le temps intérieur qui prépare à la prière, à la contemplation?
Le temps intérieur qui prépare la contemplation est une gratuité. Il s'agit de forer profondément dans mon cœur le puits afin que jaillisse l'eau vive, afin que jaillisse l'esprit. Ça demande de la lenteur, ça aussi ça prend du temps.
En quoi le rythme de la nature peut-il nous guider dans notre propre gestion du temps?
Le rythme de la nature est d'abord celui de la lenteur, une lenteur créatrice. La nature, pour nous ici en Afrique, elle est vraiment une mère. Je vois ici dans notre entourage du monastère, l'anxiété que nous avons à attendre les pluies par exemple. S'il ne pleut pas abondamment ici, nous ne pouvons pas vivre. Cette attente de la pluie est pour nous un enseignement. Tous les jours qui passent, on vit avec cette nature, on observe, on voit cette transformation. Ça donne l'espérance de vivre, ça donne la joie d'être en frais, la joie de prier. Et quand une culture regarde dans la nature comme dans un miroir, la lenteur devient même sa loi. L'Africain n'a pas inventé la montre. Il prend son temps. Et chez nous, prendre son temps n'est pas un défaut. C'est une façon d'habiter le monde, pas en courant, mais en épousant même le rythme de la mère nature qui nous porte.
Cela permet aussi d'être plus présent à soi, d'être plus présent aux autres.
Nécessairement, nous sommes une culture, la culture négro-africaine est une culture très familiale. Et justement, c'est dans la temporalité que se jouent nos relations. Il faut vraiment donner du temps pour la rencontre, pour la famille. Si on regarde les grands-parents, on doit veiller sur eux, on ne les envoie pas en maison de retraite, il n'y en a pas. Donc, le temps de la jeunesse et le temps de la vieillesse se conjuguent.
Voilà l'éloge de la lenteur par le frère Bernard, moine à Cœur Moussa au Sénégal. Il était interrogé par Hélène Détombe. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.